Amis auditeurs de Radio B, Radio B, la radio des bonnes ondes, 90.0, vous êtes dans l'émission de Bruno Point, les musiciens autour de nous. Donc autour de nous, autour de Bourg, autour de notre région, là je ne suis pas très loin de Bourg-en-Bresse, je suis à Saint-Rémy. À Saint-Rémy, dans le studio, je dirais d'enregistrement, mais surtout le studio de travail, d'un pianiste, chanteur, bien connu sur Bourg-en-Bresse, puisqu'il s'agit de Rémy Palmieri. Rémy Palmieri, nous l'avons tous entendu dans les divers bars, boîtes de nuit ou dans des soirées privées sur Bourg-en-Bresse. Donc Rémy, je vais d'abord te demander... D'abord, on se tutoie parce qu'on se connaît, puisque traînant moi-même dans les lieux où on fait de la musique, j'ai toujours eu un grand goût à t'écouter. Donc Rémy, je crois que tu es né en 1957.
Tout à fait.
Dans une famille d'origine italienne, dans un quartier où il y avait un rassemblement d'Italiens, le quartier des Dîmes.
Oui, le quartier des Dîmes, qui était un quartier populaire. Et on avait donc, dans ce quartier, la première expérience musicale avec les copains. On a fait un petit groupe. Et on a même, à l'époque... eu la chance de participer à un concours qui était organisé par le Progrès, c'était Antoine Rousset, plume bien connue sur Bourg, oui, qui organisait ce concours et qui allait dans les quartiers comme ça récupérer un petit peu les petites formations musicales.
Alors avant d'en arriver à ce concours, parlons de tes premières années. Donc ambiance où chez toi la musique était présente, sans être dominante.
Sans être dominante, elle était présente, mais elle était surtout présente par le son du voisin. On avait la chance d'avoir comme voisin Fifi Cali, qui était un accordoniste très connu à l'époque, qui avait joué après la guerre dans tous les bals populaires, et on l'entendait répéter régulièrement, toutes les semaines, cet orchestre qui répétait, et c'est vrai que ça nous a, dans la famille, un petit peu donné envie de se lancer un peu dans la musique et de laisser un petit peu le sport, parce que mes grands frères faisaient du sport, et ma maman disait, bah, tiens, pourquoi pas jouer de l'accordéon comme le voisin.
Alors ça c'est intéressant parce que ça fait écho, j'aime bien faire des ponts entre les personnes. Et donc récemment j'ai eu le plaisir de faire une émission où était présent Blaise Larocca, Blaise Larocca avec lequel tu as, je dirais, des points communs. Parce que un, vous avez démarré par l'accordéon, et deux, vous avez été professeur de musique tous les deux. Alors parle-moi d'abord de cet accordéon, de ce voisin accordéoniste.
Donc le voisin accordéoniste faisant des bals tous les samedis, on le voyait décharger son matériel devant la maison et dans sa remorque. Et donc ma maman m'a dit, tiens, bon, prends des cours d'accordéon. Et donc j'ai travaillé pendant 2-3 ans avec lui, il m'a dégrossi. Et ensuite je suis allé chez un professeur d'accordéon à Bourg qui s'appelait Rivérieux, qui était un aveugle, très connu dans le milieu de l'accordéon.
Ah, il était connu, ah, oui, dans très le connu, milieu de l'accordéon et musical.
Oui, musical, voilà. Ouais. Et voilà, ça a duré quelques années, on va dire, juste avant l'adolescence.
Et alors là, tu te mets à jouer dans des groupes.
Voilà, à l'adolescence, les cheveux poussent, les idées folles arrivent, et voilà qu'on se lance dans une autre musique, qui est le rock de l'époque. On écoutait les Deep Purple, on écoutait les Creedence, on écoutait tous ces groupes-là.
Et alors là, tu crées un orchestre.
On crée avec les copains du quartier un petit groupe, avec les moyens du bord, pas beaucoup de matériel, et c'est là qu'on va donc participer à ce concours du Progrès.
Alors oui, donc effectivement, la personnalité d'Antoine Rousset est bien connue. On le voit d'ailleurs régulièrement dans le magazine Le Mag, où on nous sort les archives d'Antoine Rousset.
Voilà, c'est vrai que c'est une mémoire vivante de la ville.
Tout à fait. Alors, ce concours, qu'est-ce qui se passe ?
Alors qu'il ne se passe pas grand-chose, si ce ne serait que pour la première fois, on monte sur une scène, une vraie scène, avec une vraie sono, vu que ça se passait au théâtre. Il y avait 8 orchestres présents, et je crois que c'est un orchestre d'Oyonnax qui a remporté ce concours, la victoire.
Alors, pour illustrer à l'issue de cette première séquence sur tes débuts, nous allons t'écouter dans un très court moment d'accordéon pour illustrer tes débuts dans la musique. Après ce court extrait qui nous rappelle tes débuts à l'accordéon, accordéon veut dire orchestre de bal.
Voilà, c'est vrai que qui dit accordéon dit bal musette, bal dit dimanche soir. Et je connais donc, grâce à mon apprentissage d'accordéon, un petit peu tous ces morceaux de musette. Et je peux donc accompagner des accordéonistes. Et je vais jouer comme ça régulièrement dans des petits orchestres où l'accordéoniste a besoin premièrement d'un guitariste chanteur un petit peu. Et puis bah, plus tard, d'un pianiste.
Et là, tu me confirmes ce que j'ai entendu nombre de musiciens, même des grands musiciens classiques, qui ont eux aussi, dans leur jeunesse, joué dans des orchestres de bal. Mais restons proches de nous, Blaise Larocca, qui me disait que c'est éminemment formateur.
Tout à fait, puisque dans l'orchestre de bal, il faut s'adapter à toutes les situations. On joue sur un char, on joue dans une salle des fêtes surchauffée, et il faut savoir accompagner, parce qu'il y a toujours tous les amateurs, il y a toujours un musicien qui part pas sur la bonne note, qui part pas dans le bon ton, et il faut vite s'adapter pour accompagner. C'est pas le cas de dire j'ai pas la partition, non, il n'y a pas de partition, là il faut y aller. Et c'est vrai que bon, on se plante deux, trois fois au début, puis après bon, on apprend à s'accrocher.
Voilà, parce que là, pour le coup, on est dans du direct, dans du vécu. Il faut que les spectateurs, les gens présents qui viennent danser,
Ouais,
qui
surtout
viennent
des danseurs.
pas forcément écouter de la
Oui.
musique, mais il faut qu'il y ait le rythme et
Voilà,
qu'il y
il faut que ça
ait
enchaîne.
faut que ça enchaîne.
Ouais.
Voilà. Donc après cette époque de bal, enfin, qui a duré de quel âge à quel âge?
Oh, de 16 ans à 20, 22, 23 ans.
Voilà. Mais là, par contre, entre-temps, tu vas à Lyon, au conservatoire.
Voilà, je fais la fac de musique après mon bac à la Lande. Et dans le cadre de la fac de musique, on a une formation au conservatoire, où là, j'apprends sérieusement la musique, là, pour de vrai.
Là, tu apprends notamment l'harmonie et le solfège.
Voilà, le solfège et l'harmonie.
Et ça va t'amener à une formation de professeur de musique.
Tout à fait. À l'issue de cette formation, je pouvais être... Mais je n'ai pas fait tout de suite prof, puisque au conservatoire, je me suis inscrit à la classe d'orchestre jazz. C'est le début du jazz dans les conservatoires. Et il y avait un Joël Serres qui dirigeait cet orchestre de jazz, qui nous apprenait le jazz. Et un jour, il me dit, tu joues bien de la guitare, là, tu fais les accords, c'est bien, tu chanterais pas un petit peu, parce que mon père cherche un guitariste dans son orchestre. Alors, je lui dis, pourquoi pas? Mais qui est cet orchestre? Et cet orchestre, c'était Maurice de Thou.
Or, ce nom, tu le connaissais
Eh
parce
bien
que tu
oui.
regardais les
Eh bien
affiches.
oui, et puis gamin, j'allais les écouter dans les salles des fêtes des alentours. Hein. À Pondin, je me rappelle. Et on avait d'autres Bressans, d'ailleurs, qui sont passés par cette école de Maurice de Thou. On a eu surtout Luc et Champart. Et puis on a eu aussi un Michel Perraca et même un Guy Amard. Donc je n'étais pas le premier Bressan à rentrer, mais j'étais le dernier musicien de l'équipe Maurice de Thou.
Alors, Luc et Champart, on le connaît bien en tant que musicien et aussi parce qu'il est présent à chaque concert à la Ferma Jazz où c'est lui qui tient les manettes
Eh oui.
de, je ne sais pas comment on appelle,
Ouais, de la sonorisation.
de la
Ouais.
sonorisation. Donc nous saluons Rémi et moi, Luc,
Voilà.
et nous lui ferons part de cette émission. Donc tu fais cette formation et alors comment tu es arrivé à être professeur?
Ouais, j'ai passé les diplômes pour être prof, quoi. Ouais.
Et tu t'es dit que tout en restant dans la musique, eh bien, tu allais faire deux carrières.
Voilà, un petit peu parallèlement, continuer ce que j'avais appris sur les scènes du bal, à continuer à animer, à faire danser les gens et à les amuser, tout en enseignant la semaine. Donc le week-end, ça me permettait d'aller à gauche, à droite, animer des petites soirées.
Et donc, dans ce métier de professeur de musique, là, tu as rencontré, évidemment, tu avais des élèves plus ou moins intéressés par la musique, mais au milieu, il y a des gens et des jeunes qui se sont révélés être des fins musiciens, plus tard.
Tout à fait. J'ai eu l'occasion d'avoir comme élève quelqu'un qu'on connaît bien dans le coin, c'est Romain Nassini, qui est le pianiste mâconnais, et puis surtout un fameux Loïs Levent, qui est un chanteur qui assez connu dans le monde du jazz, qui a finalement débuté sa carrière de musique dans mon cours de musique. En venant chanter tout seul au piano, il s'est dit, tiens, finalement, pourquoi pas faire de la musique.
Et là, sur une chanson particulière.
Oui, il chantait Honesty, parce que quand je l'ai revu en concert, il m'a dit, mais oui, c'est grâce à toi, parce que tu m'avais fait chanter Honesty au piano, tu m'accompagnais, ça m'a donné envie de chanter.
Et là, l'histoire est amusante et intéressante, parce que c'est son père qui était un industriel, qui peut-être aurait pensé à une autre carrière pour son
fils,
mais son fils lui a dit qu'il voulait être musicien.
Voilà.
Et comment a réagi le père ?
Alors, le père, il l'a dit simplement, tu veux faire de la musique, et ben tu vas aller aux États-Unis apprendre.
Voilà.
Et donc, il a fait les grandes écoles de chant jazz.
Comme quoi, tous les parcours sont possibles dès lors qu'on a la foi,
voilà.
Et le désir. En direct à Saint-Rémy, chantant en direct avec ce que je nommerais un synthétiseur.
Voilà.
Alors, nous avons écouté au début de l'émission les débuts de Rémy Palmieri à l'accordéon.
Ouais.
Après l'accordéon, il y a eu la guitare, puis après le piano. Et donc, le piano a entraîné aussi tes premières prestations dans les bars, dans les soirées privées,
en soliste.
Ouais. Voilà, où tu jouais du piano, tu chantais. Et puis est arrivé le synthétiseur.
Voilà.
Alors parle-nous de ce passage et de cette découverte.
Alors le synthétiseur, dans les années 80, il y a un fameux synthétiseur qui s'appelle le DX7 qui arrive, qui fait des sons magiques. Et avec les boîtes à rythme et ce qu'on appelait les séquenceurs, on arrive à programmer la basse et la batterie tout en jouant la partie de piano. Ce qui permet de se libérer, de ne plus avoir besoin de musiciens quelque part. Et on arrive à être indépendant, autonome, tout seul, pour jouer donc morceau avec la basse et la batterie. Par exemple, si je mets un morceau, je mets une batterie. Par exemple, je vais prendre, un morceau. Je peux lui, en plus avec ce synthétiseur, lui mettre des sons d'orgue. Je vais lui mettre, par exemple, un son de reggae. Je vais faire un reggae. Je programme.
Que tu viens de nous interpréter en direct, en fait, c'est ni plus ni moins que ce que fait Supertramp. Parce qu'eux-mêmes jouent avec un synthétiseur, entre autres.
Oui, mais sauf qu'ils ont toute la rythmique, les vrais musiciens.
Quoi. Voilà, voilà. Mais néanmoins, ils utilisent...
Oui, ce fameux piano.
Ces sons, ouais, ce fameux piano.
Ce fameux piano, là, qui s'appelle un Wurlitzer, qui a ce son...
Voilà. Alors, certes, ça ouvre des possibilités énormes, mais enfin, il faut quand même jouer.
Ah oui, il faut quand même jouer.
Il faut quand même jouer. Il faut mettre les harmonies, il faut mettre les rythmes, il faut lancer le processus.
Tout à fait.
Voilà. Et donc ça, ça a été un plus pour les animations.
Ah bah oui.
Oui.
Bien sûr. Parce qu'on arrivait même à trouver des sonorités qui se rapprochaient du disque, quoi. Et même parfois, les gens, quand ils étaient en train de manger, ils tournaient le dos, ils se retournaient en disant « Mais c'est lui qui joue !» On croyait que c'était le disque, parce que le son était...
C'était un orchestre.
Voilà, le son était tellement proche de la réalité que ça devenait intéressant.
Tout à fait. Et ce qui est quand même, je trouve, très intéressant et positif, c'est qu'effectivement, ça élargit les possibilités, mais il faut quand même jouer.
Il faut quand même jouer, par contre.
Hein, voilà.
Même des fausses notes.
Nous sommes donc en direct chez Rémi, et nous allons donc l'écouter chanter en direct avec son synthétiseur, où vous pourrez entendre Phil Collins, Against All Odds. Là, le synthétiseur joue une partition de piano, puis un très vieux standard, très vintage, Procol Harum, A Whiter Shade of Pale. Ceci avec ou sans fausse note, comme le dit Rémi, puisque c'est en direct.
When you mean the tone.
fond sonore un chanteur dont nous allons parler. Mais pourquoi allons-nous en parler ? Parce que tu as démarré par l'accordéon, la guitare, et puis après tu es devenu le musicien, un des grands musiciens de Bourg-en-Bresse et
alentour. Troubadour.
Un troubadour. D'ailleurs, tu m'avais dit, et je reprends cette expression, que tu es un artisan.
Voilà.
Un artisan. Donc ça, ça fait un peu référence à ta famille.
Voilà.
Parce que ta famille, c'était donc des Italiens.
Voilà, des gens qui ont travaillé dans le bâtiment, des maçons, des carreleurs, des peintres.
Voilà, des vrais artisans. Et alors toi, tu as bifurqué dans la musique.
Voilà.
Voilà. Et alors, donc, tu es une personne bien connue sur Bourg du fait de tes prestations dans les bars, dans les soirées privées. Mais tu es aussi sorti de la région. Et là, entre autres, nous écoutons en fond sonore un chanteur que tu as accompagné, ni plus ni moins qu'au Printemps de Bourges.
Voilà, c'est Nilda Fernandez. C'était en 82 que j'ai eu l'occasion de rencontrer quand j'étais sur Lyon. Et je travaillais dans un petit studio d'enregistrement. Et on a été une équipe de Lyonnais à aller avec lui, à partir avec lui pour le Printemps de Bourges, où il était programmé en découverte à l'époque.
D'accord. Et donc, avec cette équipe de Lyonnais, tu as été l'orchestre accompagnateur de Nilda Fernandez.
Voilà, tout à fait. Alors après, il a rencontré une autre équipe de musiciens et sa carrière a commencé juste après le Printemps de Bourges.
Mettons-le un peu plus fort pour nos auditeurs qui écoutaient des tubes dans les années 80. Alors, le Printemps de Bourges, mais aussi des tournées sur Paris, sur le Sud.
Alors, ça m'est arrivé effectivement de rencontrer un magicien qui était assez connu à l'époque sur Paris, qui s'appelait Michael Vadini, qui m'a fait venir plusieurs fois, plusieurs reprises sur Paris pour jouer dans des soirées. Je me rappelle d'une fameuse soirée à Montmartre d'ailleurs, alors j'étais tout fier d'être à Paris, restant à Paris.
Et alors dans le Midi, tu as fait des tournées?
Alors, je descendais dans le Midi, je descendais sur la côte, j'allais du côté de Saint-Raphaël et je jouais dans les bars du coin. C'était la mode à l'époque, tout le monde avait son pianiste. Maintenant, ils ont tous disparu, tout le monde a son karaoké, mais à l'époque, tout le monde avait son petit groupe, son pianiste, son duo, son trio. Et je faisais partie de cette équipe-là, ces gens-là qui naviguaient comme ça de piano-bar en piano-bar, de glacier en glacier.
Et tu as aussi fait le Club Med.
Alors, je suis allé aussi au Club Med où j'ai eu l'occasion de voyager un peu. Notamment à Marrakech, qui était un super endroit. On avait joué, je crois, 15 jours. Et puis, je suis parti aussi en Afrique avec un groupe local, un orchestre du coin, qui s'appelait Zigzag. Et on a pu aller dans différents pays d'Afrique, comme ça.
Alors, un groupe local, c'est-à-dire que la musique était teintée africaine,
régionalement ? Alors, pas du tout, non, un groupe de Bourg. On avait un groupe bressan, et on s'est retrouvés dans cet orchestre qui travaille beaucoup dans le Jura. On s'est retrouvés en brigadé pour faire des concerts avec des gens de Bourg en Afrique.
En Afrique, d'accord. Et là, tu as pu visiter quel pays ?
Ben, le Sénégal, avec l'île de Gorée, l'île des esclaves, c'était super. Le Niger, le Bénin, le Togo aussi, enfin quelques pays comme ça.
Et là, vous rencontriez un bon succès ?
Oui, parce qu'on était les Français qui apportaient des choses fraîches, quoi, des chansons que les gens ne connaissaient pas. Là, on se contrariait, bien sûr, pour les Français, les diplomates et tout ça, les ambassades. Et quand on arrivait, voilà les Parisiens, on n'était pas Parisiens du tout, mais on leur amenait la musique qui se faisait en ce moment en France, et ça leur faisait plaisir.
Très bien. Eh bien, merci pour cette évocation de ton parcours. Voici à l'intérieur de ce parcours un des grands standards chantés par Rémi, Stevie Wonder, Isn't She Lovely, à la frontière entre la variété haut de gamme et le jazz, en tout cas très jazzy. Voici Rémi chantant Stevie Wonder. Thank you.
Isn't she precious? Lights van 1 minute. Oh, I never fall in love with me. Making one as lovely as she. But isn't she lovely? Pretty to leave the angel best, but I'm so happy we have been haven place.
Particulièrement Supertramp.
Voilà.
Où jouais-tu Supertramp?
Alors Supertramp, déjà chez Jean-Paul Antoine au Swing, on faisait déjà quelques morceaux de Supertramp à l'époque. Alors, il y avait bien sûr les tubes, il y avait celui-ci. Je sais pas si tu te rappelles, on a entendu une pub il y a pas longtemps. Dreamer, you know you are the dreamer. Can you put your mind in? Tu te rappelles de ça?
Ah oui, oui.
Mais on avait surtout, celui-ci. Je te mets la boîte à rythme, ça donnait ceci.
Thank you.
Supertramp, deux standards que vous pouvez trouver sur YouTube. Je vous incite à les regarder et les écouter. Tout d'abord, le très fameux Caruso, que Rémi a beaucoup chanté dans les bars à Bourg-en-Bresse et dans les soirées. Et puis, une soirée intéressante de jazz avec Bruno Viala au saxophone, à Dagneux. Là, c'est du jazz, The Girl of Ipanema, et suivi d'un soir de pluie et de brouillard. Donc voici deux prestations de Rémi que vous pouvez trouver sur YouTube.
Quedo del mare luccica e tira forte il vento. Su una vecchia terrazza, davanti il golfo di Sorrento. Un abbraccio della ragazza, dopo che aveva pianto. Poi si schiarisce la voce e ricomincia il suo canto. Te voglio bene assai, ma tanto tanto. E una catena ormai che scioglie il sangue di te, ve ne sai. Vidi un cimezzo al mare, penso a una terra in America. Erano solo le lampade e la bianca scintillica. Senti il dolore della musica, si alzò del piano forte. Ma quando viene luce d'ombra, le sia più dolce anche la morte. Guardo lì anche la ragazza, quegli occhi verdi come il mare. Poi all'improvviso c'è una lacrima e lui crede di affogare. Te voglio bene assai, ma tanto tanto bene sai. E una catena ormai che scioglie il sangue di te, bene sai. Thank you. potenza della lirica, geotrami un falso, che con il politrucco, con la mimica, puoi diventare un altro. Ma gli occhi che ti guardano così vicino e veri ti fanno scordare le parole, confondono i pensieri. Così divento tutto piccolo, anche in hotel in America. Te volte vedi la tua vita come la scintunelica. Ma se la vita che finisce, mai non ci pensi poi tanto. Anzi, ti vedi già felice e ricomincia il suo canto. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene sai. E una catena ormai che scioglie il sangue di te bene sai. Te è una catena ormai che scioglie il sangue di te, ve ne sai.
Un artisan du spectacle, un artisan de l'animation.
Mmh.
Donc, parmi les événements, enfin, c'était pas un événement, mais les structures qui t'ont permis de te faire connaître un peu plus, c'est la Boule de Bresse.
Voilà, comme je connaissais, on se connaissait avec François Bollet, le cofondateur de Radio 2, quand il a animé, quand il présentait le Tour de France, il a rencontré des gens du business, quoi, des gens de la télé, et il les a fait venir à Bourg dans une manifestation qui s'appelait la Boule de Bresse. Mmh. Et puis, il fallait un local de l'État pour jouer pendant que ces gens mangeaient, buvaient, pendant le repas de midi. Mais c'est moi qui animais pendant plusieurs années ce repas. Comme par hasard, les vedettes étant présentes ne pouvaient pas tenir assis, sont montées sur scène et puis jouaient avec moi, chantaient avec moi. Et ça m'a donné l'occasion de rencontrer des gens superbes. Quoi.
Mmh. Et ça, je dirais, participer à ta notoriété sur notre ville
quand
de Bourg-en-Bresse.
Bah, oui, quand même. Ouais.
Et après, tu t'es donc, ou conjointement, tu te produisais déjà dans des bars.
Oui, bien sûr.
Donc on a parlé du swing.
Le swing, on s'est connus, voilà.
Voilà, oui. Et dans d'autres.
Oui, il y avait le feeling à Bourg aussi, où j'ai fait l'ouverture. Et puis le da capo de Meximieux, qui est devenu le Carioca. Également, puis plein de petits bars qui ont essayé de faire du piano bar parce que c'était la mode à l'époque, puis après se sont reconvertis, bien sûr.
Et en l'occurrence, c'est une histoire qui est intéressante, je dirais, c'est de la petite histoire, mais la vie est faite de petites histoires. Tu as amené le karaoké à Bourg-en-Bresse.
Voilà, puisque je travaillais au Club Med, j'étais en Sicile, et au retour de mon voyage en Sicile musical, je travaillais chez Jean-Paul Antoine et je lui dis, j'ai vu un truc fantastique, c'est incroyable, j'ai vu une machine, ça vient du Japon, et ça permet d'avoir tout l'accompagnement, tout cuit, et on peut bouger la tonalité. Et Jean-Paul, qu'est-ce que c'est que cette machine? Alors il n'en trouvait pas sur Lyon, il y en avait peut-être à Paris, mais il n'y en avait pas encore en France, pas beaucoup. Il est allé en Suisse en acheter une, et il a été le premier karaoké à Bourg.
Voilà, donc on peut dire que le swing a été...
Le précurseur.
Le précurseur, ouais. Grâce à une idée que tu lui as apportée.
Tout à fait.
Et en parallèle de ses activités dans les bars qui participaient à ta notoriété, eh bien, tu as beaucoup travaillé pour le privé, c'est-à-dire pour des soirées privées.
Oui, des anniversaires, des mariages, j'ai vu beaucoup de mariages, et puis les départs à la retraite, des choses comme ça, des inaugurations de locaux.
Donc ça réclame, et j'en ai fait personnellement le constat avec toi, ça réclame évidemment un talent musical, mais aussi un talent d'animateur, ou en tout cas un goût.
Oui.
Je veux pas te faire parler de ton talent, mais de ton goût plutôt.
Oui, puis de facilité d'adaptation, parce qu'il faut savoir un petit peu tout faire. On peut venir nous demander n'importe quoi. Si on veut que la soirée soit réussie, il faut répondre si on ne sait pas faire.
Et toi, ça t'intéresse que la soirée soit réussie?
Ah bah oui, c'est un challenge, une soirée. Il faut que quand j'arrive, c'est souvent difficile, soit par l'acoustique, soit parce que les gens mangent, ils ne nous écoutent pas. Mais il faut qu'à la fin, tout le monde, on vienne nous demander une carte, on me dit c'était super, et là j'ai gagné.
Et d'abord, avant de te demander la carte, ils entourent le piano.
Oui, souvent, ça se termine, on met la chaise à côté du piano, on vient voir c'est moi qui joue, c'est moi qui chante. Puis après, on accroche un peu à l'histoire, et les gens sont un peu curieux, ils sont fascinés à la fin. On a des gens qui, comme ça, partent plus, ils jouent en jouer, nous, encore deux, trois trucs.
Et aujourd'hui, tu n'es plus professeur de musique puisque tu as pris ta retraite, mais par contre, tu continues ton parcours d'artisan.
Toujours, je joue toujours dans les bars de la ville et puis toujours dans des soirées, dans des animations, partout où on a besoin de musique.
D'ailleurs, on t'a vu l'année dernière à la ferme à jazz, à la soirée bœuf au vinaigre.
Voilà, ça c'est parce qu'en ce moment, je travaille un petit peu mon piano jazz parce que j'avais pas eu le temps de le travailler quand j'étais enseignant. Et donc, pour concrétiser un peu tous ces exercices qu'on fait quotidiennement, il faut aller faire le bœuf. Et c'est vrai que la ferme à jazz, pour ça, c'est un super endroit puisqu'on peut on joue en plus avec des musiciens et on fait le bœuf.
Et c'est intéressant ce que tu dis parce que moi, j'aime bien faire des ponts entre les gens que je rencontre. Blaise Larocca, qui a commencé comme toi dans les bals, qui a été professeur de musique. Aujourd'hui, il est à la retraite, donc il n'a pas pris la direction de la tienne dans le jazz, mais il s'est mis à pratiquer l'orgue. Et il joue de l'orgue à l'église de Viria, et il est d'ailleurs en ce moment en train de chercher des fonds pour faire une réfection de l'orgue de Saint-Denis-les-Bourgs, qui a besoin d'un bon renouvellement. Donc je passe un message aux auditeurs. Alors, sachez qu'il y aura un travail mené par Blaise Larocca pour recueillir des fonds pour rénover les orgues de Saint-Denis.
Voilà, Blaise, c'est quelqu'un de très doué. Il sait écrire, parce qu'il écrit, je me rappelle, quand il avait son orchestre à Quinet, il écrivait tous les arrangements. Il joue de l'accordéon superbement bien, il joue du piano. C'est quelqu'un de très, très important pour nous.
Tout à fait. Et puis, c'est vraiment c'est un praticien et c'est un fin musicien.
Il dirige la chorale
de Saint-Denis. La chorale. D'ailleurs, la chorale s'est produite récemment.
Dimanche.
À Saint-Denis, dans la nouvelle salle des fêtes. Eh bien, écoute, Rémi, je crois qu'on a fait un petit tour de ton parcours. On a écouté beaucoup de musique et je te remercie encore de ton accueil. Et j'invite les auditeurs de Radio B à consulter ce qui est produit par Rémi Palmieri que l'on peut trouver sur YouTube. Il suffit de taper Rémi Palmieri et on trouve pas mal de choses. Merci encore Rémi.
Merci.
Autre artiste local, s'il en est, Stéphanie Ballandrin-Bulin, à laquelle j'avais consacré une émission pour son stage de comédie musicale. Eh bien, le 30 mai, en fin d'après-midi, à la MJC, Stéphanie présentera son spectacle « Les voix du quartier ». Pour l'illustrer, je vous passe un extrait de cette comédie musicale que j'avais d'ailleurs diffusée lors de l'émission qui lui était consacrée. Donc, « Les voix du quartier ».
Je fais des fausses notes, à faire fuir, mais je vais courir.
avez pu écouter lors de cette émission jouée par Rémi Palmieri, tout d'abord un court extrait en direct de Musette, mon amant de Saint-Jean, qui illustre les débuts de Rémi dans les bals, en tant qu'accordéoniste ou guitariste ou pianiste. En l'occurrence, là, c'est le synthétiseur nous joue de l'accordéon. Suivi d'un standard de variété international, Phil Collins, Another Day in Paradise, puis à nouveau Phil Collins dans Against All Odds, puis Procol Harum dans A Watershed of Pale. Ensuite, nous avons pu écouter en fond sonore Nilda Fernandez, star des années 80 que Rémi a accompagné, puis Stevie Wonder, Isn't She Lovely, suivi de Rémi en direct jouant Super Tramp, ensuite des standards que vous pouvez trouver sur YouTube, en l'occurrence Caruso, et puis du jazz avec Bruno Viala à Dagneux, The Girl of Ipanema, suivi d'un soir de pluie et de brouillard. Ensuite, une illustration, rappel d'une émission antérieure, Stéphanie Ballandrin-Bulin, qui présente une comédie musicale, Les Voix du quartier. Et enfin, pour terminer, un petit clin d'œil de Rémi, qui nous salue et nous dit à bientôt, avec la très fameuse chanson de Charles Aznavour, qui avait d'ailleurs été chantée par le regretté Thierry Luron, Nous nous reverrons un jour ou l'autre. Eh bien, revoyons-nous le mois prochain pour une nouvelle émission sur les musiciens autour de nous.
Au revoir à tous les auditeurs que j'espère revoir à un moment ou à un autre dans une fête, une animation.
Nous nous reverrons un jour ou l'autre. Si vous y tenez autant que moi, prenons rendez-vous un jour n'importe où. Je promets que j'y serai sans faute. À Noël comme à la Pentecôte, à Rio de Janeiro ou à Moscou. Plus on est de fous, plus on est de tout. Nous nous reverrons un jour ou l'autre. J'y tiens beaucoup. Le hasard souvent fait bien.